J'ai avec moi M. Roch Duchamp, directeur général du CRISPECH. Je ne sais pas si cet acronyme, ça prononce comme ça. Comment allez-vous, M. Duchamp?
Je vais bien, vous-même?
Ça va bien. On parle du Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un centre de recherche collégial. Et souvent, on associe les centres de recherche plutôt à l'université. Mais dans ce cas-ci, on parle de gens qui sont au niveau du collégial. Ça a commencé au Cégep du Vieux-Montréal, je pense.
Oui, le CRISPECH, en fait, le CRISPECH est un CCTT, dans notre jargon à nous, un centre collégial de transfert de technologie.
D'accord.
Et on fait partie d'un réseau de centres de recherche affiliés à différents cégeps et collèges de la province.
OK. Le réseau, je pense, s'appelle le Synchronex.
Voilà.
OK,
voilà.
D'accord. Et tous ces gens-là, chacun à l'intérieur des murs de son institution, travaillent à différents projets. Et le CRISPECH, ça regroupe les chercheurs qui s'intéressent davantage à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a été le point de départ?
Bien, le point de départ, en fait, on célèbre cette année notre 10e anniversaire.
Oh, bravo!
Oui, merci. Et je dois ajouter qu'on est affiliés, nous, à deux cégeps. Donc, au cégep du Vieux-Montréal, comme vous l'avez mentionné, mais également au Collège Dawson.
Oh, d'accord.
Et il y a 10 ans, c'est ça, les deux cégeps, les deux collèges avaient une spécialité un peu avec les élèves, les étudiants en situation de handicap, et ils se sont mis ensemble pour faire la demande de la création d'un CCTT qui est devenu par la suite le CRISPECH depuis 10 ans maintenant.
Et ça fonctionne par projet? Vous collaborez à des projets d'études, à des recherches, vous disséminez l'information que vous créez ou que vous retrouvez ailleurs pour la partager à d'autres collèges, ou est-ce que parce que ça sert à ça, finalement, un réseau de transfert de technologie?
Tout à fait. Bien, premièrement, notre premier point, c'est de la recherche appliquée. Donc, on fait beaucoup de recherche appliquée. Et avec cette recherche-là, on a des données probantes. Et par la suite, bien, on va créer des formations ou de l'accompagnement et le transfert de connaissances. Et tout ça en collaboration avec nos deux cégeps d'affiliation.
La semaine dernière, on avait le plaisir de parler aux gens de Nissidotam, qui est une page web, qui est un site d'aide à la recherche d'emploi, entre autres, pour les personnes en situation d'handicap issues des Premières Nations du Québec. Et ça aussi, c'est en partie une de vos activités, votre collaboration à Nissidotam.
Tout à fait. Donc, c'est une collaboration qu'on a eue avec la CDRH-PNQ, donc la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Je crois que vous avez parlé avec Mme Rosanne Gosselin.
Tout à fait.
Une partenaire là, dans ce projet-là. Donc, c'était... En fait, il y avait 3 projets de recherche qui ont abouti finalement au beau site web, là, plein d'outils collaboratifs et d'outils interactifs. Un beau projet qu'on vient de terminer en collaboration avec eux.
Est-ce que les projets auxquels le CRISPECH s'attaque, est-ce que ce sont des projets qui ont souvent, je dirais, un lien avec l'enseignement? Parce qu'il est souvent question dans votre propre site des TIS, des techniques d'information, et ça semble être une des voies importantes de votre recherche.
Bien, c'est-à-dire qu'on a 3 axes de recherche. Donc, l'inclusion scolaire,
d'accord,
évidemment, ça va de soi. L'inclusion professionnelle et l'inclusion sociale, mais vous avez raison de dire qu'en ce moment, la majorité de nos projets se situent auprès de notre premier axe, qui est l'inclusion scolaire. Et à travers ces 3 axes de recherche-là, on a quand même 3 thèmes transversaux qui ressortent beaucoup. L'un, c'est l'inclusion et les handicaps invisibles. L'inclusion et la jeunesse, évidemment, parce qu'on est affilié au collégial. Et l'inclusion et les Premières Nations, là, suite aux 3, 4, 5 dernières années où on a eu beaucoup de projets avec les Premières Nations.
D'accord. Et je sais que votre façon de travailler, entre autres, c'est d'informer le public. Vous produisez des balados, des midi-conférences. Peut-être nous en parler un peu.
Bien, dans nos activités de transfert, évidemment, on a nos médiconférences, notre série de médiconférences. Il y en a une, justement, ce mercredi, sur les TIS, donc les technologies de l'information et de la communication en éducation, donc les technologies dont on se sert en salle de classe. et le niveau d'anxiété des élèves, mm-hmm. des étudiants. Donc, on est en plein projet, on est à l'an 2 de ce projet-là, donc on ne sait pas encore quelles en sont les conclusions, mais ce mercredi, on va, ceux et celles qui veulent se joindre à nous, on va pouvoir au moins discuter où on en est dans le projet. Donc, ça fait partie de cette série de conférences-là. Il y a également, comme vous l'avez mentionné, les balado-diffusions. Ça, c'est une autre série qu'on a commencé cette année. On est à notre troisième, on travaille à la quatrième. Entre autres, on a eu comme invité Patrick Fougier-Roulas du Réseau international du processus de production du handicap, qui est mm-hmm. un modèle social du handicap. On a eu Sylvain Lemay, qui représentait la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et on a eu Sylvain Lecheter aussi de l'Université de Rimouski qui sont venus nous accompagner dans ces trois balados de diffusion. Et comme je dis, on travaille sur la quatrième en ce moment. Mais je ne pourrais pas passer sous silence notre symposium qu'on organise également.
Qui aura lieu
sur
quand?
La pédagogie qui aura lieu en début juin, du 1er au 3 juin.
D'accord.
Et justement, encore une fois, sur la pédagogie inclusive. Donc, ça fait une dizaine d'années dont on parle de CUA, de façon, la conception universelle de l'apprentissage et de toute la pédagogie inclusive. En anglais, on dit UDL, Universal Design for Learning. Mm-hmm. Et justement, on le fait avec la collaboration du Collège Dawson et leur communauté UDL pour un peu se poser la question, 10 ans après, on est rendu où en pédagogie inclusive? Donc, la période d'inscription est ouverte, donc pour ceux que ça pourrait intéresser.
Alors, ce symposium-là qui a lieu dans les toutes premières journées du mois de juin, est-ce que ça va être virtuel, probablement? Est-ce qu'une partie va être en présence?
Non, heureusement ou malheureusement, par la force des choses, ça sera en virtuel.
D'accord.
Ça va nous permettre de rejoindre peut-être un plus grand public. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'avantage du virtuel. Évidemment, on n'a pas autant les avantages du présentiel, mais en période de pandémie, on fait avec ce qu'on a, finalement.
Ça peut vous permettre d'avoir des collaborateurs qui sont en fait plus loin. Ça peut vous permettre aussi d'amener des gens qui pourraient ne pas vouloir se déplacer jusqu'à un centre de congrès dans un milieu urbain. Parce que vos événements, l'information que vous disséminez, que vous faites circuler par les balados, les médiconférences, votre public cible, ce sont plutôt les gens engagés dans le processus de l'inclusion plutôt que les personnes en situation d'handicap elles-mêmes.
Bien, c'est un peu des deux, puis mm-hmm. on le voit dans nos médiconférences, on a vraiment une clientèle très diversifiée. Ça s'adresse, le symposium s'adresse plus aux intervenants, je mm-hmm. dirais,
d'accord.
aux enseignants. Mais en général, nos balados, nos médiconférences, ça s'adresse à un public plus large.
Est-ce que depuis le début de la pandémie, on voit l'effet que la pandémie a sur votre symposium? Enfin, ça en chance. Ça vous oblige à repenser son format, sa présentation. Est-ce que ça l'a influencé? Est-ce que la pandémie vous a obligé aussi à repenser les axes ou le type de recherche que vous faites? Parce que tout le monde a été obligé de se réinventer.
On a dû tous se réinventer et on est en train justement, puis ça sera l'objet là, de la médiconférence de ce mercredi, un peu de voir parce que notre hypothèse, c'est que c'était plus difficile pour certains, mm-hmm. mais ça a peut-être été plus simple pour d'autres.
Oui.
C'est de voir et par la suite, c'est de voir les bonnes pratiques. Essayer de comprendre le positif qui est sorti de ça, s'il peut en avoir. Et de voir comment on va pouvoir s'en servir dorénavant dans la façon de fonctionner après la pandémie. Donc, il y a des choses en ligne qui ont permis, par exemple, à une clientèle dyslexique d'avoir des documents numériques et de pouvoir mieux fonctionner de cette façon-là que d'avoir des documents papier qui auraient été normalement distribués en classe. Donc, ça aurait pu aider une certaine... certaines populations. D'autres, par exemple, en lien avec l'anxiété, peut-être que ça a été moins heureux, on ne sait pas, mais c'est des hypothèses qu'on pose et on espère avoir les réponses d'ici quelques temps.
Parce que l'inclusion scolaire, en fait, il y a une différence entre l'inclusion et l'intégration. Hein. Je pense qu'il y a de cela plusieurs années, on cherchait davantage à intégrer les personnes en situation d'handicap, c'est-à-dire mettre un objet rond d'une façon ou d'une autre dans un orifice carré, là, puis il fallait que ça rentre. Puis maintenant, on parle plutôt d'intégrer. L'intégration plutôt a passé à l'inclusion, c'est-à-dire offrir différents types, différents modes d'apprentissage pour qu'on puisse trouver celui qui va convenir à telle ou telle situation. Ça a été un changement important dans le cheminement de votre centre.
Oui, puis ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus et je dirais que moi, je le vois comme une continuité, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais toute inclusion ou toute intégration, mais Ça sera en continuité. L'idée, c'est d'augmenter la portion inclusion pour diminuer la portion intégration. Mais il y aura toujours besoin minimalement d'un peu d'intégration. Pensons à la déficience visuelle, par exemple. On ne se mettra pas à tout faire en braille, mais on peut faire un accommodement raisonnable pour produire des documents en braille dans des situations très précises. Donc, ça, c'est un exemple d'intégration. Mais si on se met à distribuer des documents Word ouverts avec les logiciels maintenant, des lecteurs d'écran du type JAWS ou NVIDIA, ça permet une plus grande... Donc, ça permet une façon inclusive, peut-être, là, de fonctionner en salle de classe.
Oui.
Donc, c'est de jouer avec les deux concepts en augmentant d'année en année la portion inclusion de la chose.
Oui, à titre de personne handicapée visuelle, moi-même, je peux vous dire que je fais pas de braille, mais c'est important d'avoir des sites web ou des pages ou des documents qui sont... facile à convertir ou dont l'accès est facile pour ce qui est d'une méthode ou d'un logiciel d'apprentissage Zoom ou ainsi de suite. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Ducharme. On va certainement reparler de votre symposium quand on sera dans les journées qui précéderont et on pourra ainsi voir à ce que... on fasse un suivi et de voir où vous mènent vos recherches. Alors, mais c'était M. Roch Ducharme, qui est directeur général du CRISPECH, qui est un centre de recherche intégré pour les personnes en situation de handicap au niveau collégial. Merci beaucoup.
Merci.